Radio Canu, la plus rebelle des radios.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys have a comedy of errors. You fellow, but your fellows get cleaned at the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Nous sommes le mercredi 24 septembre, il est 19h passé de 2 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Avec ce soir les propositions du MEDEF pour créer de l'emploi.
ITER, l'un des plus importants chantiers européens.
Les aventures de l'État islamique.
Paris, grève chez les femmes de chambre.
Air France et la maladie du mensonge des socialos, c'est vraiment incroyable à quel point ils ne peuvent pas s'en passer.
Inde, une chaîne de télé engage sa première présentatrice transgenre.
Et puis ça sera l'heure de notre rubrique « Il faut que ça se sache », rubrique sur le sens de l'hospitalité à la française. Alors, le MEDEF, allez. Ah non, ouais, on voulait faire des petites brèves avant.
Et ouais.
Allez, vas-y.
Je commence.
Ouais, vas-y.
Alors, les pompiers de Montluel, dans l'Ain, à côté de Lyon, sont intervenus sur deux véhicules en feu hier soir vers 22h dans le quartier de la Maladière. Donc, les flammes se sont propagées à quatre autres véhicules garés à proximité et un compteur EDF a également été touché par cet incendie privant d'électricité les locataires de trois bâtiments.
Mais moi j'en ai pas de brèves, toi t'en as d'autres. Ah, c'était donc les brèves. Et ben maintenant on n'a qu'à passer au MEDEF, le MEDEF qui a détaillé aujourd'hui ses propositions. Alors on en avait déjà parlé il y a une semaine, bon nous on avait parlé rapidement mais d'autres émissions on avait parlé plus que ça, en particulier Idées Noires après nous s'y était un peu plus attardé. Et on en reparle aujourd'hui. Alors pourquoi il y a une semaine aujourd'hui, ça a l'air des stratégies de communication de merde pas très passionnantes. Parce qu'il y a une semaine ils voulaient annoncer leur plan, alors ils avaient laissé fuiter un peu ce qu'il y avait dedans, finalement ça dérangeait le gouvernement, je sais pas quoi, alors ils ont dit bon bah tant pis on retarde l'annonce d'une semaine, blablabla, blablabla. Bon on savait déjà ce qu'il y a dedans, on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui d'un côté, mais vous et moi on n'en sait pas beaucoup plus vu que moi j'ai pas lu le plan en question, contrairement à ce que j'aurais dû faire si j'avais été un bon journaliste, mais il faut avouer que c'est sorti aujourd'hui et que c'est quand même un livre qui fait une centaine de pages et que j'avais autre... et en plus qui est écrit dans un style mais complètement hallucinant quoi. Enfin c'est éventuellement allez jeter un petit coup d'œil, on le trouve sur internet bien sûr. C'est absolument vraiment bizarrement illisible, mais étrange. Alors toujours est-il que quand même on va revenir dessus parce que c'est un petit peu intéressant en termes de à quoi sert ce plan là. Parce que du coup il y a une histoire de stratégie et qui peut-être est déjà en train de montrer son efficacité, on va y revenir après. Alors le contenu du plan, donc voilà, comme j'ai dit, je ne l'ai pas vraiment lu, mais en gros, disons que c'est vraiment hyper agressif. En fait, je dirais que c'est scandaleux, et même sans doute que c'est volontairement scandaleux. Le résumé très rapide, c'est que si on supprime les droits des salariés, en gros, ça va créer de l'emploi. Les mesures les plus importantes, ça serait les suivantes. Alors il y a l'histoire de l'aménagement des 35 heures. Ils ne disent pas suppression, ils disent aménagement. Le MEDEF propose donc de revenir sur la durée légale du travail hebdomadaire pour toutes les entreprises et de renégocier cette durée à l'intérieur de chaque entreprise. Voilà. Et du coup, ils appellent à revoir le principe même d'une durée légale qui serait imposée à toutes les entreprises et à prendre en compte la diversité des situations, des secteurs d'activité, permettre la fixation négociée d'une durée du travail au niveau de l'entreprise. Et la loi s'appliquerait à ce moment-là uniquement aux entreprises qui dans lesquelles il n'y aurait pas de négociation ou pas de... Enfin, en gros, les entreprises qui s'en foutraient. Ça, c'est pour les 35 heures. Pour le SMIC, donc en gros, ça reviendrait quand même à ce que les gens puissent massivement bosser plus de 35 heures. Pour le SMIC, le MEDEF propose d'introduire des contrats aidés pour l'embauche de chômeurs de longue durée. Et du coup, des contrats aidés, ça veut dire que même si les gens étaient payés le SMIC, les entreprises, elles, pourraient les recruter à un coût qui serait bien inférieur à ce qu'est actuellement du coup le coût pour une entreprise du SMIC plus des charges patronales. Alors, il parle de travailler dans un cadre transitoire d'accès à l'emploi destiné à certaines populations très éloignées de l'emploi, donc en gros, nous, les gens qui sont au chômage depuis longtemps, les galériens, les nanana. Et donc, par exemple, sous forme de contrats aidés qui seraient destinés aux entreprises. Bon, les contrats aidés, pour l'instant, qui existent, on est d'accord, hein, c'est uniquement dans le secteur associatif et éventuellement dans l'administration, mais pas dans le privé. Et donc, eux, ils veulent que le privé puisse aussi embaucher avec des contrats aidés. C'est-à-dire, en gros, que vous et moi, avec nos impôts, on finance ces contrats qui serviraient à ce que les patrons s'en mettent plein les fouilles. Le coût du travail pour les personnes du coup qui sont très éloignées de l'emploi, blabla, aujourd'hui, c'est ce que dit le MEDEF, alors ouvrez les guillemets, le coût du travail reste lourd pour une entreprise puisqu'il représente charges comprises entre 1700 et 1750 euros par mois. Ils sont obligés de payer 1750 euros quelqu'un qui va bosser et ça les scandalise, quoi. Ah là là, les pauvres. C'est ça, alors leur souci, c'est qu'on les paye, quoi, et qu'on paye des charges sociales. Bon. Et puis après, ils ont aussi l'idée de supprimer 2 jours fériés, parce que les jours fériés, voilà, ça quand même, il y en a vraiment trop. Du coup, pour l'instant, il y en a 11. Alors le MEDEF trouve qu'il faudrait en supprimer 2. Alors peut-être pour que ça soit dans un truc d'acceptabilité. Dans un premier temps, il faudrait surtout éviter les ponts, peut-être supprimer les jours fériés qui sont les jeudis, par exemple, pour éviter qu'il y ait des ponts les vendredis. Ou alors peut-être juste les décaler un petit peu pour les coller au week-end. Et alors supprimer 2 jours de férié par an, ça va créer 100 000 emplois. C'est ce que nous explique le MEDEF. Alors, c'est comment est-ce qu'ils arrivent au chiffre de 100 000 emplois? Attention, vous allez voir, le MEDEF s'embarrasse pas exactement d'une démonstration étayée et tout ça, là. Donc, ça, attention, toute leur démonstration tient là-dedans, c'est entre guillemets. J'ai pas lu le document en entier, mais quand même, je suis allé chercher des petits trucs. Et donc, pourquoi 100 000 emplois? Ouvrez les guillemets. Supprimer 2 jours fériés par an permettrait d'allonger la durée annuelle travaillée de 1,2 jours, ce qui représente environ 0,9 du produit intérieur brut. Or, on estime que 1% du PIB supplémentaire permet de générer 100 000 emplois supplémentaires.
C'est la baguette magique.
La baguette magique, donc voilà, 100 000. Il faut dire qu'il propose avec tout ça de créer 1 million d'emplois. Bon, bien sûr, évidemment, c'est le MEDEF. Il s'engage, enfin, il y a pas d'engagement, il y a pas de si jamais ils les créaient pas, ils auraient des problèmes ou quoi là. C'est juste évident qu'ils vont les créer si on leur accorde tout ça. Quand même d'ici à 2020, hein, c'est pas non plus dans les 6 mois qu'ils vont les créer. Bah, il faut bien dire qu'ils ont un petit souci de crédibilité là-dessus, vu que pour l'instant, on vient quand même de leur lâcher 4 et quelques milliards d'euros pour qu'ils créent je sais plus combien d'emplois ils avaient promis, et pour l'instant, c'est pas comme si ça s'était beaucoup vu.
Mais comment, qui peut vraiment les croire dans cette histoire à part augmenter leurs bénéfices? On sait très bien qu'ils...
Oui, bien sûr. Mais alors après, voilà, c'est que toutes ces propositions, elles sont évidemment complètement inacceptables. Il y a aucune chance que demain, la semaine prochaine ou même dans quelques mois, il y a un gouvernement qui dise ah ouais tiens, peut-être on a vraiment qu'à les faire passer. Je veux dire, en gros, ils suppriment le SMIC, ils suppriment les 35 heures. Il y a plus rien, quoi. Et ça va pas marcher. Pour l'instant, en tout cas, ça peut pas marcher. Mais du coup, bon, alors d'une part, le MEDEF, il choisit quand même son moment. Hein. Là, on a le gouvernement le plus entreprisophile qu'on ait eu depuis, je sais pas, moi, peut-être depuis le 19e siècle, la révolution industrielle ou un truc comme ça, là. Du coup, voilà, il y a quand même un... Ils ont le vent en poupe, quoi. Mais surtout, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que même si le MEDEF pense pas que ces propositions vont passer dans l'immédiat... Juste en les faisant et en provoquant des réactions, et y compris les réactions outrées, hein, et en faisant que les syndicats sont obligés de répondre sur le détail de ces propositions, etc., ça fait que des trucs qui étaient jusque-là juste complètement hors du domaine de ce qui est pensable, de ce qui est envisageable, et ben tout d'un coup, ça rentre dans le domaine des choses pensables et envisageables. Et rien que en une semaine, là, depuis qu'ils ont laissé fuiter leur merde il y a une semaine et jusqu'à aujourd'hui, il y a une semaine, ça paraissait complètement débarqué de Mars, et aujourd'hui, ça paraît déjà moins débarqué de Mars. Et en fait, je pense que la stratégie, elle est là, elle est dans ce truc d'une sorte de stratégie du choc, là. Ils proposent des trucs complètement dingues, sauf que une fois qu'ils ont proposé, que tout le monde en a un petit peu parlé, c'est déjà un petit peu moins dingue. Et du coup, après, bah, on sait pas, hein. On sait pas combien de temps ça peut prendre, mais si ça se trouve, un jour ou l'autre. Et alors voilà, en gros, ce qu'il faut voir surtout, c'est que derrière ces propositions un peu précises, il y a surtout l'idée que le droit du travail en soi est un problème. Alors c'est nanana, blabla, la rigidité, tout ça là, et que c'est un frein, donc un frein à ce qui est l'emploi, la croissance, toutes ces merdes, enfin tous ces trucs. Et donc voilà, c'est rigide, c'est strict, c'est problématique, et on ferait mieux de tout rendre négociable. C'est-à-dire, en gros, ils disent pas on ferait mieux de monter la durée hebdomadaire du travail à 40 heures, à 45 heures, ou je sais pas quoi. On ferait juste mieux de permettre que les gens s'entendent entre eux, parce que avant tout ça, voilà, il y a eu des rapports, il y a eu la guerre des classes, c'était tendu et tout ça, et ça aboutit à ça. Mais de nos jours, quand même, tout le monde s'aime bien, tout le monde veut travailler ensemble pour créer de l'emploi. Les employés ont intérêt à ce qu'il y ait de l'emploi, comme les patrons ont intérêt à ce qu'il y ait de l'emploi. Et donc, au lieu de laisser régir des rapports entre gens qui ont tout pour s'entendre par des lois, on ferait mieux de les laisser s'entendre réellement entre eux. Alors, bien sûr.
Mais qu'est-ce que tu racontes ?
Mais non, mais je veux dire, c'est ça un peu qui a derrière ce truc de dire c'est un problème qui a une durée légale du travail, c'est un problème qui a un salaire minimum qui soit fixé par une loi, c'est un problème que la loi vienne se mêler de ce qui serait un peu la vie privée des entreprises, quoi.
Mais oui, parce que moi je suis un patron correct, je les exploite pas mes salariés.
Mais oui, et surtout, en fait, tes intérêts vont évidemment dans le même sens que les intérêts de tes salariés. Tout ce que vous voulez, c'est qu'il y ait de l'emploi. Bon, les salariés, eux, des fois, ils veulent en plus être bien payés. Mais ça, quand même, ils exagèrent aussi, il faut pas déconner. Et bon, voilà.
T'as fini, là, ou pas ?
Non, pas tout à fait. Et c'était pour dire quand même que, du coup, dans un cadre où il y aurait plus de droits du travail et où tout serait négocié à l'intérieur des entreprises, ça, c'est quand même vraiment... Enfin, je rappelle des sortes d'évidence un peu, mais ça c'est vraiment, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, là, c'est vraiment livrer les salariés pieds et poings liés à leur patron. Bon, alors déjà, pour les salariés les plus bêtes, l'argument autour de « Oh là, mais là, si vous acceptez pas qu'on descende votre salaire et puis de travailler deux fois plus, c'est sûr, l'entreprise va pas survivre, du coup vous allez tous vous retrouver au chômage », et ça périodiquement quand même ça marche. Et puis pour ceux qui feraient de la résistance quand même, qui se laisseraient pas avoir par ces arguments, et ben de toute façon, s'ils ont pas de loi sur laquelle s'appuyer, ils sont énormément plus sensibles à tout ce qui peut relever de la répression syndicale, quoi. Donc voilà, je reviens à ce que je disais, que c'est juste en se scandalisant de ce que le MEDEF propose, en faisant ça, on en parle. En en parlant, déjà, on est en train de leur rendre service. Alors, je voulais quand même terminer en disant à Gattaz que s'il nous écoute, peut-être là, avec le fait que je viens d'y passer plus de 10 minutes, la moindre des choses serait de faire un petit chèque pour l'appel à don de Radio Canu. Merci, Gattaz.
Maintenant, je vais parler d'ITER, qui est l'un des plus importants chantiers européens et aussi une zone de non-droit pour les travailleurs. Donc à Cadarache, au sud des Alpes, c'est le site du réacteur nucléaire expérimental à fusion ITER qui va bientôt accueillir plusieurs milliers de travailleurs, ce qui en fera l'un des plus importants chantiers européens. Un projet international doté d'un budget de plusieurs milliards d'euros. ITER ressemble aussi et surtout à une vaste zone de non-droit et de dumping social. Il accueille des travailleurs détachés venus d'Europe du Sud. L'opacité règne, les droits syndicaux sont inexistants et les pouvoirs publics eux-mêmes semblent avoir renoncé d'emblée à toute application du droit du travail. Donc on est en ligne directe avec ce que tu racontais sur le MEDEF. Le chantier ITER devrait accueillir d'ici quelques mois, alors là c'est pas mal, hein, c'est entre 3000 et 4000 ouvriers qui construiront une quarantaine de bâtiments en plus du réacteur proprement dit. Et donc je vous conseille une émission qui s'appelle Terre à Terre de France Culture, qui est récemment revenue sur les problèmes de conditions de travail et d'atteinte aux droits des travailleurs sur le chantier. Et des syndicalistes CGT d'Areva et l'animateur d'un comité local de chômeurs y expliquent dans l'émission de radio qu'ITER attire beaucoup de travailleurs détachés sous contrat intérimaire venus d'Espagne, du Portugal et d'Europe de l'Est. D'ailleurs, mis en concurrence entre eux. La plupart sont hébergés dans des logements précaires, notamment des campings plus ou moins désaffectés. Et l'avantage, pourquoi tout ça est possible en France ? Eh bien, c'est parce que ce chantier est un projet international et le droit français ne s'y applique pas entièrement. Donc ça, c'est le coup de baguette magique aussi des projets internationaux. Donc le consortium ITER, qui regroupe divers prestataires amenés par le groupe français Vinci, n'a par exemple pas d'existence légale en tant que tel. Comme dans le secteur du BTP en général, le recours à la sous-traitance y est généralisé. Les autorités publiques françaises donc, ont refusé d'octroyer à ITER le label « Grand Chantier ». Et le label Grand Chantier implique notamment certaines obligations supplémentaires en termes de dialogue social. Et donc, par exemple, le fait qu'il y ait des syndicats, la possibilité de se syndiquer. Et ils ont accepté de limiter les pouvoirs de contrôle de l'URSSAF et autres administrations. Et donc, les syndicats, voilà, n'ont pas accès au chantier. Et où il y a un climat sur le chantier d'intimidation très fort des travailleurs. Donc, au final, une vaste zone de non-droit social au cœur des Alpes.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Allez, on se fait un petit tour du côté des djihadistes. On va commencer par annoncer cette histoire-là du coup l'otage français, celui qui a été enlevé hier, avant-hier, je sais même plus, en Kabylie, il semble bien été décapité. Il y a une vidéo qui est passée sur Internet, alors elle n'est pas encore authentifiée, tout ça, mais comme en même temps ces ravisseurs avaient de toute façon donné un ultimatum de 24 heures au gouvernement français pour arrêter les frappes en Irak, et que le gouvernement français n'a pas arrêté les frappes, ça serait, enfin voilà. On va pas non plus s'y attarder pendant des heures sur cet otage français, vu que ça fait un mort dans cette guerre où il y en a quand même des tonnes et des tonnes d'autres. Alors c'est pas parce qu'il est français qu'il nous importe, qu'il y a des raisons qui nous importent beaucoup plus que les autres. Du coup, voilà. Par contre, alors voilà, aujourd'hui il y a Valls qui est passé à l'Assemblée nationale pour une sorte de petite procédure de la République qui est un débat sans vote. Et du coup ils ont parlé un peu tous ensemble, donc Valls et les députés, ils ont parlé un peu de cette guerre, qu'est-ce qu'ils en pensent tous, tout ça. Bon, sans grosse surprise, en gros tous les partis trouvent très bien d'aller faire des frappes en Irak. Sur ce coup-ci, y compris les écolos qui quand même classiquement sont plutôt opposés aux guerres de Hollande par exemple. Et voilà. Bon, il faut dire aussi que évidemment personne peut vraiment trouver l'État islamique sympathique. Que c'est clair que juste un peu de sympathie, par contre, pour les gens qui vivent dans les zones où ils sont, ça suffit à se dire que ouais, des bombes francs. Enfin, ou en tout cas, ça suffit à enlever. Bon, allez, je vais parler juste de moi tout seul. Moi, ça suffit à m'enlever mes petites certitudes d'antimilitariste habituel. Sur ce coup-là, c'est un petit peu plus compliqué, au minimum. Mais quand même, avec le président qu'on a, on peut se dire que sa principale préoccupation, c'est pas forcément le soutien aux populations irakiennes qui sont victimes de l'État islamique. On peut rappeler déjà que c'est quand même la troisième guerre dans laquelle il s'engage en 2 ans et demi de présidence, ce qui est quand même un peu balèze, quoi. On sait globalement que dans une situation de guerre, le peuple français a tendance à faire l'union nationale avec son gouvernement, avec son président, que les partis globalement ont aussi tendance à accepter ce truc d'union nationale. Donc là, Hollande, bien sûr, vu sa cote de popularité, qui est quand même vraiment, qui atteint des niveaux complètement hallucinants du jamais vu et tout ça, hallucinamment bas. Et ben peut-être que c'est pas tout à fait pour rien dans le fait qu'il s'engage le cœur joyeux dans la première guerre qui passe. À chaque fois qu'il y a moyen d'aller envoyer un petit peu des soldats par-ci, des petites bombes par-là, il en est trop content. Et en fait, tellement même que là, ça devient d'une banalité folle qui fait que c'est ça, tout le monde le soutient, mais en même temps, ça change plus grand chose à ce qui se passe autour. C'est-à-dire que à force d'abuser du remède, en fait, il fait que le remède est même plus très efficace.
Oui, tu parles en termes de
popularité.
Et puis de politique française, parce que oui, ça change considérablement la vie de.
Ah oui, oui, là je parlais uniquement du côté politique française, ouais. Bon, voilà. En tout cas, effectivement, pour ce qui se passe là-bas. Alors, bien sûr, par contre, la France compte pas envoyer des soldats. Hein, la France envoie des soldats au Mali contre des milices armées de cailloux et de lances. Mais là, elle envoie pas vraiment des soldats contre l'État islamique, parce que là, plutôt, ce qu'elle fait, c'est un truc où, d'un côté, on pourrait se dire, c'est pas mal. Elle autonomise les populations sur place. En gros, elle file des armes aux Kurdes, alors attention, pas au PKK, mais aux Kurdes irakiens de souche et tout ça, là, pour qu'ils se défendent eux-mêmes. D'un côté, on pourrait se dire, c'est pas si mal de faire les choses comme ça. D'un autre côté, il faut quand même pas non plus complètement négliger l'aspect de, ok, les gens qui vont se faire tuer sur le champ de bataille, ça reste dans tous les cas les bronzés. Et les Français, eux, ils planent à quelques centaines de mètres au-dessus de tout ça. Ils ont quelques bombinettes et ils risquent pas trop d'avoir des pertes dans un premier temps. Et alors quand même, pendant qu'on est à l'État islamique, je voulais revenir un tout petit peu sur. Mais bon, j'espère, chers auditeurs, que avant de nous écouter, vous étiez à l'écoute de Méga Combi et que vous avez déjà un petit peu eu des choses sur le sujet. Mais quand même, la bonne histoire du jour, l'histoire rigolote, c'est les trois djihadistes présumés, ce qu'on appelle les djihadistes présumés, dont le beau-frère de Mohamed Merah, c'est dire s'il est méchant, qui sont revenus de Syrie aujourd'hui, enfin qui sont arrivés en France aujourd'hui. Alors ils étaient partis combattre en Syrie, et puis à un moment ils se sont barrés de Syrie. Pour l'instant c'est pas entièrement clair pourquoi, mais ils ont choisi eux-mêmes de se barrer de Syrie. Ils sont arrivés en Turquie, ils ont été arrêtés en Turquie, ils sont restés quelques semaines en tôle en Turquie, et puis la Turquie les a extradés vers la France, donc les a mis dans un avion. Et là, attention, l'Elysée a annoncé un gigantesque coup de filet antiterroriste, a annoncé le coup de filet comme ça pendant qu'ils étaient dans l'avion. Ça y est, on vient d'arrêter trois terroristes, et attention, des terroristes super méchants et tout ça là. Et puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la police française les attend à l'aéroport à Paris. En fait, leur avion est arrivé à Marseille. Eux, ils sont descendus de l'avion, et d'après leur avocat aujourd'hui, ils sont vraiment allés voir un flic. Je pense comme dans le sketch de Méga Combi tout à l'heure, là, ils sont vraiment allés voir un flic en disant excusez-nous, nous on pensait être attendus. Et là, rien, que dalle. Alors ils sont allés dormir chez je sais pas quoi, soit ils avaient des potes à Marseille, soit ils sont allés à l'hôtel, soit je sais pas quoi. Ils ont un peu parlé avec leur avocat au téléphone. Et puis ce matin, tranquillou, ils sont allés au commissariat pour dire non mais là on vient se rendre en fait, parce que ça a pas de sens cette histoire. Enfin, vous avez annoncé à la radio que vous nous aviez arrêtés, tout ça, nanana, qu'est-ce qu'on fout dehors quoi. Et ce à quoi on peut aussi se dire que du coup la France qui arrête héroïquement des djihadistes sanguinaires, alors qu'ils réussissent même pas à leur mettre la main dessus, mais surtout les djihadistes sanguinaires en question qu'il faut arrêter héroïquement, ils vont d'eux-mêmes au commissariat en disant bah alors qu'est-ce que vous faites, ils tendent les bras pour avoir les menottes. On pourrait dire que le côté ils ont l'air quand même gentils, non? Ou en tout cas ils ont l'air d'avoir une sorte de bonne volonté pour coopérer, il semblerait. Et je voulais dire un autre truc sur eux, mais j'ai oublié, alors tant pis.
Paris, grève chez les femmes de chambre. Donc, aux yeux de la CGT, c'est une victoire pour les 80, une victoire historique, pardon. Ne mangent jamais leurs mots, pour les 80 femmes de chambre et équipiers du Parc Yacht Paris-Vendôme. Donc après 4 jours de grève, un accord a été signé hier, 23 septembre, avec la société sous-traitante qui les embauche, qui s'appelle Luxe et Tradition. En parallèle, il y a la grève qui est également lancée, qui était lancée le 19 septembre, qui se poursuit par contre chez les femmes de chambre qui travaillent dans l'autre hôtel parisien du même groupe, la Yacht, cette fois à Madeleine et non Vendôme. Donc elles sont embauchées par un autre sous-traitant, Azurial. Donc la veille, comme lors de leur précédente grève un an plus tôt, donc le 18, les femmes de chambre avaient organisé un défilé de mode festif et combatif. Occasion de rappeler que les salariés qui travaillent dur dans ces hôtels servent des personnalités richissimes qui payent leur séjour d'une nuit jusqu'à... Un petit chiffre. Combien tu payerais de nuit d'hôtel si tu étais ultra bourge?
Je sais pas, mais peut-être ça peut correspondre à plus que ce que je gagne dans l'année, non?
Ouais, jusqu'à 16 000 euros.
Ah ouais, nuit, hein. Carrément beaucoup plus que je touche dans l'année.
C'est ça, ce qui représente plus d'une année de salaire d'une femme de chambre ou d'un plongeur. Et l'accord signé entre Luxe et Tradition, donc parlons de la petite Victoire et ses employés, porte principalement sur des revendications salariales. Et donc, au 1er janvier 2015, une femme de chambre ou un équipé gagnera au minimum 1870 euros bruts sur 13 mois pour 35 heures par semaine. L'augmentation s'élève en moyenne à 400 euros par mois. Donc, ce qui est quand même une jolie victoire, quoi.
Mmh.
Les grévistes portaient essentiellement la revendication d'être rémunérés au même niveau que les autres palaces parisiens. Et ça sera maintenant chose faite. Voilà, pas de remise en cause toutefois du principe de sous-traitance. Je veux dire, ils augmentent les salaires, mais c'est tout. Yacht refuse idéologiquement de les intégrer, note le syndicat. Donc en 2012, la lutte des femmes de chambre d'un autre groupe, Louvre Hôtel, a conduit ce dernier à revoir sa politique vis-à-vis de la sous-traitance en y mettant fin pour intégrer les salariés des deux hôtels, les Premières Classes et Campanile de Sur-Seine, où la grève avait éclaté, et en prévoyant de travailler sur l'internalisation des fonctions de nettoyage sur 5 établissements importants de la région parisienne d'ici à 2015. Voilà. Donc c'est pour dire que y a encore de belles victoires à gagner.
Ok, et avant l'info suivante, on va se mettre une petite chanson avec des paroles qui font quand même toujours plaisir, parce que nous, à Canu, on continue de niquer la France.
Sonne d'expression populaire. Encore un nouvel affront qui fera jacter dans les chaumières. Devoir d'insolence, devoir d'irrévérence, devoir de résistance. On n'est pas là pour leur plaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses auteurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé, maintenant c'est formel, ça y est, c'est confirmé. Parfois ministériel, les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés, carte blanche pour les grands pauvres qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant. Raciste et assassin, tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels. Un mythe, un mirage, un mensonge officiel, petit donneur de leçons. Petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Est-ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles? Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants, affligeantes. L'évolution en 60 ans, regarde à l'Assemblée, il y a que des culs tout blanc. Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon. Quand t'adhères à leurs projets, quand tu cautionnes leurs saloperies, leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes ils adorent le couscous et Cheikh Khaled, mais ils flippent que leur fille leur amène à Mohammed. Fais pas t'en étonner, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rastons qui n'ont jamais enlevé leur costume de prolong. Le racisme est dans vos murs et dans vos livres scolaires, dans vos souvenirs, dans votre histoire, dont vous êtes si fiers omniprésent. Il est banal et ordinaire, il est dans vos mémoires et impossible de s'en défaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son
passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Et toi alors, petit socialiste hypocrite, j'ai pour toi quelques rimes amèrement écrites. Tu nous as dit que ta cause était celle des sans-papiers, qu'elle était antiraciste. Tu nous as promis l'égalité, tu nous as fait miroiter, rêver d'une France meilleure. Mais tu triches, tu récupères, comme avec la marche des beurs, manipulateur. Tu cours après l'électeur, mais on t'a démasqué, toi et ton parti d'usurpateur. Et à nos intellos, nos petits fachos à lunettes, nos têtes à claques, comme la connasse de Fourès. Tu propages, alimentes la haine du musulman, du banlieusard, avec leur discours leur discours arrogant, insultant et méprisant. On lui présente leur propagande dans les médias dominants. C'est l'union sacrée contre l'envahisseur, le barbare, le sauvage, contre l'ennemi intérieur. Mais on va pas se laisser faire, se laisser baïonner. On va pas lâcher l'affaire comme Élie du LKP. C'est mon devoir d'insolence, mon devoir d'irrévérence, mon devoir d'impolitesse, mon devoir de résistance. Vive la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Vive la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes.
Radio Canu, la Radio Canute, la plus fut-fut des radios.
Et alors, si l'abandon ou le report du projet Transavia en Europe permet de trouver une solution à la crise, c'est la bonne solution. C'est la dernière des déclarations successives aujourd'hui de Manuel Valls à ce propos. Il était au Havre à ce moment-là. Mais il faut le faire vite, dit-il. Il faut le dire, ajoute-t-il. Il ne doit pas y avoir de surenchère de part et d'autre, blablabla. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à propos de Air France ? Donc, on se rappelle, les pilotes de Air France sont en grève depuis un petit moment déjà. Manuel Valls a commencé par leur faire le son, leur dire « Non mais là, arrêtez-moi ça tout de suite, un peu sur un ton comme ça. »
« Allez, soyez des grands garçons, voyons. »
Donc le Premier ministre qui va dire à des grévistes ce qu'il doit faire. Alors certes, les pilotes sont des gens plutôt extrêmement bien payés. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas que de revendications salariales, il s'agit quand même d'une grève contre le fait que leur entreprise, qui est une entreprise normale, là, devienne une entreprise ultra cheap de low cost. Et que eux, du coup, se retrouvent avec des conditions de travail de low cost, même si, bon, ça reste des pilotes, ok. C'est plutôt dans les gens pour qui ça va bien. Mais après, faire le tri entre les gens pour qui ça va bien et les gens pour qui ça va pas bien, et dire qu'il y en a qui sont moins légitimes que d'autres à revendiquer, le problème d'une logique comme ça, c'est que si on commence, après, on s'arrête plus. Et tous les gens qui gagneront 20 centimes de plus que le SMIC, on va commencer à leur dire « Non mais toi, tu vas pas te mettre en grève, tu te rends compte ?» Donc voilà, nous en tout cas, on va pas rentrer là-dedans et dire les pilotes, il ferait mieux de faire gaffe ou je sais pas quoi. Valls, par contre, lui, il le fait tout à fait, bien sûr, parce que bien sûr, si ça avait marché avec les pilotes, après, il aurait essayé ça avec tous les mouvements de grève, les uns après les autres. Non, mais vous savez, il y a plus malheureux que vous, alors là, vous feriez mieux de... Bon, toujours est-il que ces pilotes sont donc en grève, contre, du coup, le fait que Air France crée une filiale dans laquelle eux risqueraient d'être embauchés et qui serait une filiale à bas prix, low cost, et qui s'appellerait Transavia, donc Transavia, entre autres, en Europe.
Et, qui existe déjà, hein, d'ailleurs.
Ouais, oui, mais du coup là, ça serait le fait d'en créer une version européenne et du coup que les pilotes qui pour l'instant ont un contrat de travail de Air France sur les lignes Air France et tout ça, ils risqueraient de se retrouver avec des contrats de travail de merde. Bon, bref. Toujours est-il que c'était pas là où je voulais en venir, c'est ça. C'est alors voilà, ça négocie, et puis Valls, il trouve que maintenant il faut que ça avance parce qu'il en a marre de cette grève. En plus, il y a qu'un vol sur deux qui est assuré, ça fait vraiment mauvaise image. Et puis c'est bon, alors toujours pareil, c'est dangereux pour l'entreprise et donc pour les emplois de tous les gens dans l'entreprise. Ils ont quand même réussi aujourd'hui à créer une manifestation d'autres salariés de Air France et de différents salariés des aéroports pour dire aux pilotes, allez maintenant remettez-vous au boulot. Mais alors ce matin, tout d'un coup, le ministre des Transports, le secrétaire d'État aux Transports, qui s'appelle Alain Vidalis, lui, il se lève ce matin et il appelle les médias, il appelle l'AFP, tout ça, pour dire, ça y est, tout va avancer, maintenant la grève est certainement terminée parce que la direction d'Air France a décidé d'abandonner le projet, le projet Transavia. Et là, mais pourquoi il a dit ça lui ? Et en fait, pourquoi il a dit ça ? C'est juste parce que c'est un socialiste et que les socialistes, ils mentent par réflexe. Le matin en se levant, ils ont une envie de mentir. Ça doit être un truc comme ça. Parce que bien sûr, la direction, enfin bien sûr, du coup, à ce moment-là, c'était pas bien sûr parce que ça aurait pu être vrai, mais la direction a donc appelé par l'AFP pour dire « Ah, il paraît que vous avez abandonné le projet. » Ils ont dit « Bah non, en fait, non. » On l'a juste, on est sur la même base de négociation que hier et avant-hier là. C'est, on a dit qu'on le suspendait pour 6 mois, mais il n'est pas question qu'on l'abandonne pour l'instant. Et voilà. Mais alors là, je veux dire, c'est les socialistes qui. Alors bon, alors on vient de voir les socialistes qui annoncent un coup de filet, qui sont sûrs de faire, mais qu'ils n'ont pas encore fait. Ils l'annoncent comme fait. On connaît très bien les socialistes qui promettent le droit de vote aux étrangers, qui promettent la PMA, qui promettent tout ça, qui tiennent jamais, qui vont encadrer les loyers et puis finalement non. Bon, toutes les promesses des socialistes, on les connaît. Mais là, le gars, il est tellement socialiste qu'il ment sur un truc où il suffit d'un coup de fil de la part des gens de l'AFP pour savoir qu'il a menti. Mais c'est complètement fou, quoi. Et alors, du coup, toute la journée, le gouvernement disait « Si, si, c'est abandonné. » La direction, qui est quand même, c'est eux qui décident à la fin, ils disaient « Bah, non, non, c'est pas abandonné. » Et puis le gouvernement disait « Oh, quand même, si, ça doit bien être abandonné. » Et voilà, on a eu cette espèce de petit échange de communiqués au fur et à mesure de la journée, bon, qui finalement se solde par « Eh ben, du coup, il y aura des négociations demain, après-demain. Il y a un préavis pour jusqu'à la fin du mois de septembre et la direction continue à dire aux gens qui ont des billets d'avion, en fait, vous pouvez les décaler gratuitement et avec nos excuses, mais plutôt pour après le mois de septembre, parce que d'ici là, c'est pas sûr que vous puissiez voler. Enfin, que vous puissiez partir. » You're going to hell, measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not king here. I don't know about tomorrow, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Ah, heureusement qu'il y a l'Inde dans la vie pour sauver les avancées progressistes. Non, le progrès, les avancées. Donc, une chaîne de télévision engage sa première présentatrice transgenre. Ce qui veut dire, un homme qui est devenu une femme. Une chaîne de télévision indienne a nommé pour la première fois une transgenre présentatrice des informations. Elle s'appelle Padmini Prakash, elle a 31 ans, elle est professeure de danse et elle a été embauchée comme présentatrice des infos pour Lotus News dans l'état méridional du Tamil Nadu. Et elle s'est avérée si populaire auprès des téléspectateurs et téléspectatrices qu'elle a été promue à un rôle plus important. Et aujourd'hui, elle est à la tête du journal de 19h de la chaîne.
Pardon. Ah non, c'est pas ça. Chut,
écoutez.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine à expulser.
Fatigue dans les studios. Alors, la première info, c'est en Italie, les évasions en série des centres de rétention de la semaine. Donc, le 21 septembre, c'était au CIE de Ponte Galeria, à Rome, où un groupe de 4 retenus a tenté l'évasion. Un a été blessé en tombant le 20 septembre 2014, oui, c'est logique, au CIE de Trapani. Dans la nuit, quatre personnes se sont évadées du CIE. Parmi eux, un jeune s'est violemment cogné la tête et a été transporté à l'hôpital. Depuis, personne ne sait où il est. Et le 19 septembre, c'était à Caltanissetta, tentative d'évasion de 30 personnes empêchées par les opérateurs de la coopérative Auxilium qui ont prévenu la police anti-émeute. Et maintenant, on part à Calais, quelques news aussi de la semaine. Et pour la première brève, et autour de cocktails. Dans la nuit de vendredi à samedi, le squat dit des Égyptiens, qui est à avenue Blériot à Calais, a été attaqué à coups de cocktails Molotov par plusieurs personnes. Donc des jeunes calaisiens, on pourrait dire aussi des jeunes fascistes, voilà. Et un des occupants du squat raconte, ils étaient quatre jeunes quand les cocktails Molotov ont été lancés. Certains d'entre nous sont sortis. Les jeunes étaient en voiture et un camarade a été percuté et blessé à la jambe. Ensuite, il y a eu une poursuite dans le quartier. La police est arrivée et apparemment a réussi à attraper les quatre jeunes. Et alors, ces derniers-là devraient être jugés en procédure de comparution immédiate aujourd'hui au tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer. Mais bizarrement, ni la police ni le parquet ne souhaitent communiquer sur cette attaque.
Faut que ça sache !
Il faut que ça se sache !
Une autre brève sur le foot. Donc, comme tous les dimanches depuis 2 ans, les exilés sont venus jouer au football sur les terrains de la citadelle, comme les Calaisiens le font depuis toujours. Il y avait une 60aine de personnes, joueurs et publics, venus les encourager. Voilà. Sauf que la mairie a fait mettre une pancarte à l'entrée du terrain en réservant l'usage. Alors, comme ils ne pouvaient pas faire une pancarte raciste, ils ont mis à l'usage des licenciés des clubs et aux élèves, ce qui permet d'exclure les migrants. À la suite, donc ça, la mairie l'a fait à la suite de sa tentative du dimanche d'avant d'interdire l'accès du terrain aux exilés. Donc 2 personnes ont pris des photos d'une voiture et ont fait des saluts nazis en partant. Donc c'est une petite info pour montrer l'ambiance un peu lourde qu'il y a en ce moment à Calais, les histoires de cocktails Molotov, là, un endroit où il y a des migrants qui viennent souvent, bah là, les fascistes, ils viennent faire leur kiki, etc. Et donc, l'adjoint au maire, monsieur Mignonnet, est passé accompagné d'un huissier pour constater l'occupation du terrain. Ils ont vraiment que ça à foutre le dimanche, quoi. Lequel huissier est devenu très agressif quand on lui a demandé de ne pas oublier de constater aussi que des jeunes Calaisiens étaient en train de jouer sur le même terrain. Voilà.
Faut que ça sache !
Il faut que ça se sache !
Une petite mission secrète à Calais. Donc, comme Calais, ben, de jour en jour, le nombre de migrants augmente et que la tension augmente grave, et que le gouvernement a une grosse épine dans le pied, ils font traîner. Les socialistes, ils savent bien faire traîner. Donc, 2 hauts fonctionnaires en mission spéciale sont arrivés aujourd'hui à Calais pour 3 jours. Donc, ils ont été nommés fin août par le ministère de l'Intérieur. Cazeneuve qui a dit « Ah ben peut-être il faudrait faire quelque chose, on n'aurait qu'à envoyer nos détectives secrets ». Donc ils ont 7 mois pour analyser la situation des migrants dans le Calaisie et proposer des solutions. C'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Donc en mars 2015, ils devront remettre un rapport à Cazeneuve. Et donc, au vu du travail de plein de militants et d'associatifs depuis des années et des années qui cherchent aussi vachement à être entendus par le gouvernement, c'est quand même, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, parce que ce gouvernement, ils sont pas malins, mais s'ils le seraient plus, ils auraient qu'à écouter directement les personnes concernées qui sont dans la situation depuis un moment et qui ont des propositions plutôt intéressantes.
Et t'as encore un... Oups, pardon.
Faut que ça sache !
Il Fox que ça, ce sage.
Et donc, je propose, ça va être un petit peu long, mais c'est une situation de Calais, petit flashback sur 2009. Parce que l'annonce par le gouvernement britannique qu'ils allaient, donc ça c'était samedi, qu'ils allaient abonder à un fonds pour la sécurisation du port de Calais à hauteur de 15 millions d'euros sur 3 ans, donc 5 millions par an, renforce le parallèle entre la situation que nous vivons maintenant et celle de 2009. Donc je reprends la situation de 2009 parce qu'on n'a pas des bonnes mémoires et du coup c'est toujours intéressant de faire des ponts. Donc 2009, depuis le dernier trimestre de l'année précédente, le nombre d'exilés présents à Calais augmente fortement. Il s'agit alors principalement d'Afghans. Le campement le plus important qui sera médiatisé comme la jungle de Calais se trouve dans la zone industrielle des dunes, comme actuellement. Les conditions et les dunes, là, c'est en face du port de Calais, ce qui permet d'essayer de passer quand il y a des bouchons sur l'autoroute. Les conditions sanitaires étaient particulièrement précaires, la gale se développe et les autorités mettent en place une opération de traitement. Une séquence médiatique se développe au long de l'année avec la représentation des migrants massés à la frontière et des temps forts rythmés par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Éric Besson, jusqu'à la destruction finale des campements. Le ministre articule son discours entre fermeté, donc la fermeté, destruction des campements, expulsion vers le pays d'origine, et cette chose imprécise qu'elle est démantèlement des filières de l'immigration clandestine, rappelons que Cazeneuve en a parlé tout l'été, et humanité, donc ce qui est entendu par humanité, demande d'asile, infrastructure humanitaire légère. En arrière-fond, une négociation franco-britannique porte sur les aspects répressifs et sur un partage des coûts d'équipement et d'infrastructures pour le contrôle de la frontière. Donc, si vous avez écouté régulièrement les Canu Info de cette année, ben vous avez compris que c'est exactement la même situation que 2009, puisque 2014, à quelques variations près, on retrouve les mêmes éléments. L'augmentation du nombre d'exilés, amorcée au cours du dernier trimestre 2013, cette fois il s'agit principalement d'Africains de l'Est, Soudan, Érythrée, la dégradation des conditions de vie entraîne à nouveau une épidémie de gale, une opération de traitement sert à nouveau un vernis humanitaire à une première vague de destruction de campements, donc c'était le 28 mai, suivi d'une seconde un mois plus tard, le 2 juillet, avec rafles et tentatives d'expulsion vers le pays d'origine. La séquence médiatique est par contre beaucoup plus chaotique. Valls vient finalement à Calais en décembre 2013 après plusieurs mois d'hésitation. Il est ensuite nommé Premier ministre et son successeur est quasiment invisible jusqu'à cette rentrée. Et c'est le préfet ensuite qui prend la manœuvre. Et ce qui permet de laisser à la mairesse Natacha Bouchard un plus grand positionnement médiatique. Elle a un jeu médiatique disproportionné par rapport à son rôle réel. Mais comme elle a encouragé depuis deux mandats une des formes de délation forte, le fait qu'elle soit peut-être aussi très présente dans le truc, dans le paysage médiatique, permet aussi de révéler tous ces trucs d'extrême droite qu'il y a pu avoir, notamment avec ce truc Sauvons Calais, le collectif. Résultat à la fois de l'augmentation du nombre d'exilés et des expulsions de squats et campements des 28 mai et 2 juillet, la tension autour du port augmente et domine la scène médiatique pendant l'été et puis là aussi en septembre. Et le gouvernement britannique lui fait ce qui était attendu de lui, il paye. Donc ça j'ai déjà dit, il alimentera à hauteur de 5 millions d'euros. Donc vous voyez, ils vont construire, ils vont rehausser les barrières dans le port. Mais en fait, augmenter les barrières, c'est juste qu'il y aura plus de personnes qui vont se blesser en passant, parce que quand on a fait des milliers de kilomètres pour arriver à Calais, c'est pas 3 mètres de plus de barrières qui empêchent les gens de passer par-dessus. Et donc voilà. Peut-être on peut repréciser, en fait, le gouvernement britannique, ça se passe exactement comme en Syrie. Comme en Libye. Parce qu'en Libye, et ils ont exactement le même rôle, les Britanniques, c'est le fait, donc la Libye, le fait en étant rétribué par l'Italie et l'Union européenne, la France se charge d'empêcher la traversée des exilés et de traverser la mer et mène sur son territoire une politique de dissuasion, violation des droits de l'homme comprise. Donc le communiqué du ministre du ministère français de l'Intérieur présente, à côté des aspects répressifs et financiers, le volet humanité, reposant comme en 2009 sur l'asile d'une part et sur des infrastructures humanitaires à minima de l'autre. Là, c'est Natacha Bouchard qui a parlé d'un centre de jour, sauf que la mise en place de celui-ci semble à l'heure actuelle reposer sur plein d'improvisations et le flou le plus total. C'est du foutage de gueule parce que tous les militants et associatifs disent qu'il n'y a pas besoin de ça à Calais, mais de vrais lieux d'hébergement. Et je sais pas, je pourrais encore continuer. En tous les cas, dans cette situation, il y a pourquoi en fait la déclaration franco-britannique maintenant ? Est-ce que c'est un peu pour foutre la paix et faire oublier la situation de Calais et du moment en disant beaucoup de déclarations pour faire un peu oublier qu'il y a plein de migrants pour que ça se tasse un peu pour le gouvernement ? Ou au contraire permettre qu'il y ait beaucoup de déclarations, permettre la destruction des campements et l'augmentation des rafles et des expulsions vers les pays de transit ou d'origine, voilà. Et donc, bien sûr, a priori, la peur, c'est que ça soit plutôt la deuxième hypothèse qui soit la plus vraie pour cet automne.
Ok. Et cette fois-ci, écoutez, il est presque moins 5, mais on a déjà terminé. Alors, on va vous laisser, comme on a tendance à le faire, avec un petit peu de musique, la fameuse musique de ce qu'on appelle les bandes continues de Radio Canu.
Vous pouvez réécouter ce Canu Info sur le site rebellion.info sur la journée de ce soir et de demain. Et puis, vous pouvez aussi aller sur les blogs de Radio Canu en choisissant le blog Canu Info.
Et puis, en attendant que ça soit en ligne, le mieux que vous ayez à faire, c'est encore après ces 5 minutes de musique, d'écouter l'émission Idées Noires, l'émission de la Confédération des groupes anarchistes.
Ciao à la semaine prochaine.